les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. La radio Principe Actif mène de nombreux ateliers en partenariat avec la mission locale d'Évreux, mais aussi de Verneuil-sur-Avre. Et là, je me retrouve en compagnie d'un groupe hébroïcien. Bonjour Anthony, bonjour Enzo, bonjour Enora. Et bonjour l'invité mystère.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Anthony, tu peux me rappeler le nom du dispositif? C'est bien s'orienter, c'est la base. Merci beaucoup. Vous étiez tous les trois en centre-ville d'Évreux pour interpeller des habitants et des citoyens, mais vous n'étiez pas que tous les trois. Il y avait, on peut penser à eux, à Esther et Nouran qui vous ont accompagnés tous les trois, réaliser un micro-trottoir sur un sujet qui va toucher forcément notre invité mystère avec qui on va passer un peu de temps ensemble et lui poser quelques questions. Vous n'avez pas encore écouté tous les trois le fruit de votre travail. Va-t-il vous satisfaire? Va-t-il vous plaire? Va-t-il vous convenir? On l'écoute et puis je veux bien votre avis en retour. Et puis bien sûr l'avis de notre invité mystère un petit peu concerné. On s'écoute tout de suite cette production et ces enregistrements que vous avez réalisés en centre-ville d'Évreux qui ont été montés par l'ami Simon.
Du coup, que pensez-vous de la magie?
Je trouve ça plutôt extraordinaire, enfin ça sort de l'ordinaire. Après c'est vrai que je m'y connais pas forcément, mais je trouve ça cool.
Bah c'est plutôt intéressant, c'est surprenant on va dire. On sait pas ce qui se passe et quand on sait bah c'est toujours très intéressant même essayer de faire des tours.
Bah moi je trouve que c'est une source de divertissement qui peut être intéressant surtout pour les enfants en bas âge qui peuvent trouver ça cool, parce que du coup ils connaissent pas, ils ont pas forcément la notion de ce qui se passe et ils y croient vraiment.
Bah j'ai pas tellement de d'opinion et de je sais pas quoi penser. La magie, bon, peut-être toi?
Bah non, c'est magique, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la magie? Bah la magie c'est quelque chose ouais, c'est du rêve, ouais. Du rêve.
Irréel.
Ouais, irréel.
Ouais.
Voilà, on est trompé d'ailleurs par la magie. Hein, voilà, ok.
Que pensez-vous de la magie?
Je dirais que c'est impressionnant et extraordinaire. Et la magie, bah, c'est magique.
Moi j'aime bien, j'ai appris à en faire, ça peut être sympa.
Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça émerveille.
Je pense que c'est un peu fictif. C'est un peu de la technique en soi, la magie. C'est, comment dire, c'est un peu unique comme question, mais la magie. Tour de magie, je trouve que c'est difficile surtout. C'est très difficile à cerner. Ça dépend des tours de magie, il y a plusieurs types de tours de magie.
Moi j'aime bien, je trouve ça assez impressionnant quand même, tout ce qui est magie avec le corps, pas forcément que les cartes, mais par exemple où on fait déplacer le corps humain, enfin le système où ils le font déplacer, je trouve ça intéressant quand même.
Pareil, je trouve ça intéressant, puis même j'ai vu un film qui s'appelle Le Prestige, où il parle des trois principaux... comment ça s'appelle? Attends.
Je sais pas que tu parles.
Une espèce de code de la magie où t'as trois. Je sais plus quoi, mais le film m'a intéressé, ça parlait de la magie, du coup bah c'est comme ça que je me suis intéressé, etc.
Moi quand la magie je pense à Eric Antoine.
Quel objet, accessoire et vêtement qui incarne cet art?
Le foulard rouge.
Ah, quel objet, accessoire ou vêtements, une cape noire une petite mallette avec plein de petites choses à l'intérieur pour faire des tours de magie, une baguette, voilà.
Bah oui, moi j'ai répondu aussi.
En même temps, c'est à peu près la même chose pour les deux. Il n'y a pas de problème.
Bah, c'est surtout le chapeau avec le lapin quand on le sort, c'est très connu. Après, moi, sinon, il y a aussi le bâton de magie pour lancer des sorts, si on veut.
Bah, il y a aussi des petits costumes avec des petites capes, des fois aussi, la petite tenue, le petit maquillage qui va avec, quoi. Voilà.
D'accord.
Quel objet ? Un chapeau noir ? Costume noir ? Ouais, costume, chapeau noir.
Quel objet, accessoire et vêtement incarne cet art ?
Bah moi, étant faisant du jeu de cartes, je dirais plutôt les cartes. Les cartes, après, je sais que dans l'imaginaire, il y a beaucoup le chapeau, la cape, tout ça, voilà, mais...
J'irais plus, je les vois en costard. En costard, élégant, un peu unique dans leur façon de s'habiller. Quand on voit un magicien, on pense à la cravate, façon un peu élégante de s'habiller.
Oh, souvent le grand chapeau où il fait apparaître le lapin, une grande baguette, souvent les vêtements noirs assez sombres et souvent une espèce de manteau, comme un short costume, assez lent, peut-être à peu près jusqu'au tibia. À peu près.
Moi je dirais les animaux, comme le lapin ou l'oiseau, les objets où on peut cacher des gens, etc. Et pareil le chapeau aussi.
Je dirais le chapeau, objet en... Souvent, comme c'est pas des vrais animaux, je vais dire un lapin en peluche. Après, je vais dire une cape et une baguette.
Le chapeau, je dirais.
Si vous-même vous étiez magicien, avec tous les pouvoirs, que feriez-vous ?
Ah là là, j'en ferais des choses avec les pouvoirs. Si j'avais le pouvoir de changer des choses, j'aimerais bien changer plein de choses. Hein. Changer plus de l'aspect égoïste, l'aspect. Pas le côté asocial de certaines personnes. J'aimerais que tout le monde vive en paix, heureux et qu'on soit plus dans l'empathie. Voilà.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein.
Non.
Ça, bah oui. Hein.
Parce que tout le monde l'est pas, oui, c'est pas vrai.
Bon, c'est ce qu'on voudrait, mais bon.
Ouais.
Okay. Je sais pas trop. Je ne saurais pas comme ça dire. J'avoue, je pourrais pas dire.
Très bonne question. Bah, je sais pas vraiment. Pourquoi pas faire apparaître des choses ou et impressionner les gens. J'aimerais bien. Ça pourrait être sympa.
Moi, je pense que je me téléporterai tout le temps partout. Hein. Ça peut être cool. Plus besoin de voitures, de marchés.
Oui, bah oui.
C'est cool, ça.
C'est vrai que ça peut être bien. C'est vrai que c'est très efficace, surtout.
Ah oui.
Et si vous-même, vous étiez magicien ou magicienne, avec tous les pouvoirs, que feriez-vous ?
Je ferais apparaître un lapin blanc. C'est le cliché, mais ouais, je ferais ça.
Tous les pouvoirs. Pouvoirs, c'est-à-dire ? Pouvoir fictif ou magicien ?
Tout ce que vous voulez.
Tout ce que je veux. Un pouvoir imaginable, bien sûr. Ça peut être pouvoir voler ou me téléporter.
Je sais pas, disparaître, faire apparaître une personne, je sais pas, à l'autre bout de la scène. Ça serait marrant de voir, par exemple, aller sur la place des Breux, et là, on tourne la tête et on le voit au haut du clocher. Et puis c'est quand même assez impressionnant, quoi. On se dit, là, un tour de passe-passe, c'est pas aussi possible avec une grande distance et une grande hauteur.
Pareil, me faire téléporter ou me faire cloner ou quelque chose comme ça.
En vrai, ça dépend les moments. Soit je me téléporterai, soit j'irai plus vite. Après, j'ai pas d'autres idées.
Des billets.
Changer le monde pour qu'il soit plus tolérant et beaucoup plus joyeux. J'enlèverai les guerres. Et ça, c'est plus de la magie.
Bon, à chaud, là, vous venez de découvrir le fruit de votre travail, Anthony, Enzo et Nora. Intéressant.
Oui, oui.
Chouette. Alors, il y a bien sûr quelques idées préconçues et quelques préjugés qui se baladent, mais on a aussi entendu des choses originales et rigolotes. Déjà, est-ce que vous trouvez ça intéressant à l'écouter ainsi? Vous qui avez mené l'action, là, vous écoutez le résultat.
Bah oui, parce qu'en fait, on se réécoute et il y a eu un changement comparé au début et à la fin.
Pas pareil. Enzo?
Bah, c'est bien, on découvre ce qu'on a fait.
Ouais. Bah, vous avez tous bien bossé, hein. J'ai plus de 11 ou 12 personnes qui ont pris le temps de répondre, des gens différents, vous avez un peu conseillé la chose.
Et d'un point de vue social, on voit tout ce qui se rassemble et en même temps qui diverge en soi. Ouais.
Ah, il y avait des gens différents,
oui.
Voilà, avec des avis un peu tranchés, des raccourcis, mais en même temps des choses légères et rigolotes. Moi, j'ai un petit garçon qui dit la magie, c'est magique.
Ouais.
Normal. Ah, en même temps, c'est trop mignon. Bah, c'est vrai. À un moment donné, pareil aussi, quelqu'un qui dit « Ouais, moi, je trouve que ça peut être cool pour les petits-enfants et tout. Eh, » Moi, je me dis que c'est pour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Anthony, c'est pour tout le monde, imaginons.
Bah, bien sûr.
Bah, grave. Enzo, t'es sensible à ça ou pas, toi?
Bah, y a pas d'âge.
Bah, ouais. Et Nora, t'es convertie, toi. Ouais. C'est un peu toi qui as choisi le sujet. D'ailleurs, notre invité avant qu'il se présente, qu'est-ce qu'il pense de ce micro-trottoir? Est-ce que quand il parle avec des gens, c'est un peu les idées qui ressortent?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées dans ce micro-trottoir. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, effectivement, la magie, c'est pour les enfants en bas âge. C'est le mot qu'elle a sorti. Pas du tout. Les enfants en bas âge, ils comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas le temps d'assimiler, c'est beaucoup trop jeune. On peut faire à partir de 5 ans, mais pour moi, en bas âge, c'est en dessous de 5 ans et... Enfin, ça capte pas très bien ce qui se passe. Et oui, la magie, effectivement, c'est pour tout le monde. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup, à écouter, on entend un panel d'âges différents. Ça va des plus jeunes aux plus anciens. Et pour le coup, étonnamment, tous disent qu'ils aiment la magie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient influencés ou pas par le micro ou pas. Parce que ces derniers temps, avec mes collègues magiciens, on a souvent remarqué que... soit les gens ils adorent énormément, soit certains jeunes ils ont tendance à trouver ça un petit peu vieux jeu, un peu désuet, un peu par le passé. Mais ça commence à revenir de plus en plus grâce au cinéma. Pour le coup, on a de la chance d'avoir des films qui sortent au cinéma, comme Insaisissable ou comme à la cité The Prestige, qui sont d'excellents films parce que aussi nous les magiciens on travaille sur ces films-là. Alors pas moi personnellement, j'aimerais bien. On n'y est pas encore, mais ils font appel notamment par exemple à David Copperfield pour les Insaisissables, et ce qui fait que même s'il y a de la magie avec les effets spéciaux, ils améliorent un peu le côté réel de la chose, le sujet qu'ils traitent et la manière dont ils en parlent est vraiment bien représenté. À la tenue du magicien, ça m'a fait un peu rigoler pour le coup, honnêtement. Aujourd'hui, les magiciens, on a tous des tenues très différentes et surtout des tenues atypiques. L'objectif pour être un bon magicien, c'est d'avoir un bon personnage, et pour avoir un bon personnage, il faut savoir sortir du lot, donc avoir une tenue, quelque chose qui dénote. Hein, effectivement, à l'époque, dans les années 1800-1900, on était effectivement sur le costard, le chapeau, la baguette, le lapin à faire apparaître. Aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'animaux en spectacle de magie, on évite de plus en plus. Effectivement, des fois, on remplace les lapins par des lapins en peluche quand on fait de la magie pour enfants, par exemple. Voilà, moi honnêtement sur scène, effectivement, j'ai un style un peu plus Peaky Blinders avec un long manteau, avec un petit costard en dessous. J'essaye de rajouter des éléments qui me représentent, genre des clés que j'aurai sur moi avec mes initiales et un petit côté un peu dans l'univers de Tim Burton. Personnellement, moi c'est ce que je m'approprie. Mais voilà, c'était vachement intéressant. Après, beaucoup de synonymes hein, pour le coup, merveilleux, magique, assez répétitif dans l'ensemble, parce qu'ils savent pas trop. Mais c'est ça la magie, c'est du mystère. On sait pas trop comment le décrire parce que c'est indescriptible en quelque sorte. Voilà.
Vous l'avez compris, le monsieur, il est magicien. Et on a le plaisir de recevoir Emilius Magerium. Voilà, c'est là aussi Enora hein, qui a joué un peu des coudes. Bon, elle a pas eu trop à forcer auprès de nous. Sujet qui nous semblait très pertinent et intéressant, qu'on avait encore que peu évoqué sur notre antenne. Et de ce fait, bah, on va laisser le soin à Enora justement de lui écrire, plutôt de lui poser quelques questions qu'elle a écrites. Même si on doit dire la vérité, elle a fait la 99% de l'interview, on s'est permis avec Anthony et Enzo, de rajouter une bricole ou deux, mais on la laisse faire et voilà, passer un bon moment. On est en compagnie d'un vrai magicien, donc c'est cool, on va en profiter.
Donc, Emilius, comment t'es venu ton nom de magicien ?
Alors, c'est tout un grand parcours, parce que le nom, pour trouver un bon nom de magicien, c'est pas facile. Quand j'ai commencé la magie, j'avais 11 ans. J'ai appris la magie grâce à un professeur de magie qui enseignait tout. Et petite seconde, on rapproche le micro, voilà. Effectivement, du coup, je m'étais appelé John Magic, mais c'est compliqué quand on est enfant de trouver un bon nom. J'avais fini par revenir par mon prénom personnel parce que je trouvais pas quelque chose qui était flagrant. Et puis c'est pendant que le Covid est arrivé que j'ai vu le film de L'apprentie sorcière, un très très vieux Disney, où dedans il y a un personnage qui s'appelle Emilius Brown, qui est un magicien charlatan. Et j'ai beaucoup aimé le prénom Emilius. Alors moi, je l'ai un peu francisé, j'ai rajouté l'accent qui n'est pas dans la version anglaise, bien évidemment. Et puis c'est de là qu'est parti Emilius. Alors au début, je comptais m'appeler seulement Emilius, pas avoir le Magerium. Mais quand les journalistes ont commencé à écrire mon vrai nom de famille dans les articles, parce qu'ils voulaient à tout prix naturellement devoir mettre un nom de famille, bah, j'ai cherché quelque chose qui sonnait un peu machine, magique, imaginaire. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le merveilleux magasin de Monsieur Magorium, et en fait, quand ça finit en yum, j'aime bien parce que ça invoque l'imaginaire. Et du coup, j'ai mélangé un peu magie, mage, et ça donne Magerium. Voilà.
Tu as dit que tu as commencé la magie à 11 ans. Tu as commencé à t'y intéresser ou tu as vraiment commencé à pratiquer?
Alors, en toute honnêteté, j'ai même commencé à m'y intéresser quand j'avais 7 ans. Et je ne m'en rappellerai pas si on n'avait pas des vieilles VHS qu'on a reconverties pour pouvoir les revoir aujourd'hui, où je faisais déjà un tour de cartes avec les vieilles boîtes de magie que mon père il avait à mes copains de classe, à mes anniversaires. Et puis après, il y avait des cours de magie à Saint-Sébastien avec l'AEP Le Sentier. C'était un petit peu onéreux à l'époque pour mes parents, donc ils ont mis un peu de côté. Et puis après, la première année de cours est partie. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans avec Patrick Gess, qui était mon mentor. Et puis après, par la suite, c'est moi qui a commencé à donner des cours de magie à l'EP Le Sentier. Voilà.
Et il y a eu un petit déclic qui t'a donné une envie de t'intéresser à la magie ou c'est venu comme ça ?
Déclic, je sais pas. Après, c'est comme tous les enfants, j'étais fan à fond d'Harry Potter quand c'est sorti, pour le coup, parce que les cartes que j'utilisais quand j'avais 7 ans pour faire les premiers tours de magie, c'était un jeu de cartes Harry Potter. Mon père avait la boîte de magie Atlas, parce que c'était une entreprise locale, si je dis pas de bêtises, Atlas. Ils avaient fait leur boîte de magie avec des classeurs, il avait un classeur avec 2-3 accessoires, et en fait, c'est parti de là, j'ai commencé à regarder, à travailler, et j'en ai fait 2-3, c'était tout, j'aimais bien en faire, mais c'était pas spécialement mon objectif de vie. Au début, je voulais travailler dans les effets spéciaux dans le cinéma, même s'il y a toujours un lien, parce que ce serait les effets spéciaux physiques. Et au final, je me suis dit non, je vais me lancer à fond dans ce que j'aime faire, la magie, et puis voilà.
Et est-ce que tu continues à te former ? Est-ce que tu as besoin de performer tes tours de magie et d'apprendre de nouvelles choses constamment ou pas ?
Il faut, c'est important, il faut se tenir à la page parce que la magie évolue sans cesse. On a chaque année une quantité de nouveaux tours de magie qui sortent, plus ou moins impressionnants. Il faut au minimum s'informer de ce qui se fait parce qu'après, la magie, c'est assez onéreux, donc on n'a pas forcément les moyens d'acheter le dernier tour de magie qui coûte... voilà. Mais par contre, en effet, oui, il faut rester s'informer de ce qui se fait et il faut continuer à concevoir. Là, je travaille encore sur mes grandes illusions, j'améliore constamment les textes, la mise en scène. J'ai d'autres projets de grandes illusions que j'aimerais construire également. Les techniques restent les mêmes. C'est toujours la même base, il y a des techniques de base, et quand on les sait, on est capable de plus ou moins tout faire. Après, il faut savoir comment les amener.
Ça veut dire que, Emilius, j'imagine que tu crées tes propres tours, on va y revenir, c'est une question des noirs que je ne voudrais pas piquer maintenant, mais quand tu évoques quand il y a des tours tout frais, tout récents, qui coûtent très cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent des tours de magie et qui, potentiellement, c'est une marque déposée, peuvent le revendre et on a le droit d'acheter le tour de magie de l'autre. Comment ça se passe dans le monde, en fait ?
Exactement. Donc, il y a des fabricants qui existent, qui sont souvent des magiciens, enfin qui performent aussi de leur côté, qui ont monté leur boîte et qui conçoivent des tours de magie, seuls ou accompagnés. Et effectivement, quand ils vendent un produit, on l'achète entre guillemets clé en main. Ça veut dire qu'on c'est pour ça que d'ailleurs que c'est assez onéreux la magie, parce que on paye la conception du tour, le matériel, on paye le secret. Et effectivement, du coup, aussi le droit de pouvoir le reproduire, entre guillemets, ça dépend des magiciens, mais des fois, il y en a qui le vendent, on a le droit de reproduire plus ou moins à l'identique. J'ai acheté un numéro d'un magicien qui est une corde rallonge électrique qu'on peut déplacer et qu'on ouvre, et en fait, lui, il vend carrément le tour avec sa propre musique qu'il a écrite pour son numéro à lui. Donc on a le droit de réutiliser sa musique. Après, c'est pas l'objectif. Souvent, quand on achète un tour de magie, l'idée, c'est de se le réapproprier pour le faire soi-même, pour donner son image, amener son personnage dessus. L'idée, c'est qu'on n'achète pas vraiment... Enfin, moi, honnêtement, quand j'achète un tour de magie, j'achète pas un tour de magie, j'achète un accessoire. Ouais. Et l'idée, c'est que moi, je me réapproprie le tour, et c'est ce que la plupart des magiciens
doivent faire. Ça, il l'autorise. Si on le détourne du...
C'est même conseillé. C'est pour arriver à se différencier des autres. Si on fait tous le même tour à l'identique, les spectateurs, quand ils voient un magicien et un autre, ils disent bah ça je m'en fiche, je l'ai déjà vu, enfin je connais. Et alors que quand c'est amené différemment, même si le trucage est le même, derrière l'effet peut être complètement différent.
As-tu une marque de fabrique ?
Alors une marque de fabrique, j'en ai oui. Alors j'ai sorti, mais ça j'en ai plus en stock. Il faudrait que je refasse une petite boîte de magie à mon effigie, qui est la Magerium Magic Box. J'en avais fait qu'une vingtaine au début parce que il faut pouvoir avoir l'investissement pour en faire produire plus. Donc c'était un ensemble de petits tours de magie. Pour le coup, ce n'étaient pas tous les miens. Hein. Il y en avait un ou deux dedans qui était un peu la manière dont moi je le fais. Et l'idée c'était de faire découvrir un peu la magie. En tout cas, à bas prix pour le plus possible, du moins, parce qu'avec les marges, c'est toujours compliqué. Sinon, j'ai aussi en marque de fabrique la Magerium Academy, qui est une animation Harry Potter que je fais, où j'apprends aux enfants à faire des sortilèges Harry Potter. Donc, tout ça, c'est des petites. Et j'ai aussi le manoir Magerium, qui est des salles d'escape game que j'aime faire, parce que j'aime faire tout ce qui est aussi animation immersif, où je mets mes accessoires de magie, enfin, mes accessoires, mon savoir-faire magique. Pour arriver à avoir quelque chose d'immersif. Et en fait, moi, je m'appelle Emilius Magerium, j'ai mon entreprise qui s'appelle Art Magic & Co, donc l'art de la magie et compagnie. Et effectivement, l'idée, c'est qu'après, j'ai plusieurs petites branches où je fais plusieurs activités immersives dans l'art du spectacle vivant.
Et as-tu un incontournable ?
Un incontournable, en numéro, tu veux dire ?
En numéro, en événement, peu importe.
Alors, en événement, oui. En événement, j'ai le Couloir des Horreurs, qui est une maison hantée que je fais chaque année depuis maintenant, je sais plus, il faudrait calculer, depuis 2012, on est en 2026, ça fait 14 ans. Alors il y a 2 ans, on l'a pas fait à cause du Covid, mais ça c'est un incontournable que je fais chaque année, et on fait plus de 1000 personnes sur cet événement. En tour de magie, un incontournable que j'adore faire, mais que j'ai malheureusement pas encore l'occasion de beaucoup le sortir, c'est l'homme coupé en deux. Où là, c'est moi qui me fais couper en deux à la verticale, à l'horizontale. On sépare les morceaux, on vient me taser pour pouvoir réanimer mon corps. Mais c'est un accessoire de magie qui fait quand même quasiment 3 mètres de long sur 1,40 m de large. Donc en fait, c'est qu'il faut pouvoir le faire dans des théâtres ou des grandes scènes, et souvent, c'est pas forcément le cas. Donc, et c'est pour ça que je développe mon spectacle de grande illusion qui devrait sortir l'année prochaine, si tout se passe bien.
Est-ce qu'il y a quand même, dans cet angle-là, un tour que tu adores pratiquer ? Celui-ci, il n'est pas simple, tu adorerais le faire, et là, on entend que tu vas pouvoir le faire, et on te le souhaite plus grandement. Mais celui qui vient tout de suite en tête, qui sait qui match et puis que tu aimes bien faire.
Celui que j'aime bien faire, c'est le foulard dansant. En fait, je fais un numéro un peu dans le style Mary Poppins. J'ai mon sac à malice qui arrive sur scène en plein milieu. Et il se déplace tout seul. Je l'ouvre et en fait, dedans, je sors quelques objets improbables. Et ensuite, je sors un foulard. Et le foulard, il re-rentre dans le sac. Et puis, je le ressors. Et puis, je vais le mettre dans une bouteille. Et puis, il se met à danser dans la bouteille. Et puis, ensuite, je viens danser avec lui au milieu de la scène. Ça, c'est un numéro que j'adore énormément faire. Parce que tout de suite, on a vraiment ce côté magie, illusion. Et je donne vie à quelque chose. Et c'est ce côté-là que j'aime énormément faire dans ce numéro-là. C'est que je donne vie. C'est pas juste je vous présente un truc. Je fais un effet waouh, non, là je donne vie à quelque chose, et ça je kiffe énormément. Alors j'aimerais bien l'améliorer encore, mais les accessoires pour l'améliorer, pour qu'il traverse la salle, etc., ça commence à être un autre level, et ça le sera certainement quand le spectacle de Grande Illusion commencera à cartonner.
Et pour toi, est-ce qu'un magicien peut faire un tour de magie avec n'importe quoi?
On peut faire... Alors oui, oui, et c'est le principe de la magie même, c'est que quand on connaît ces techniques, là je vois par exemple qu'il y a une boîte à crayons, je peux prendre un crayon et puis hop, le faire disparaître en une fraction de seconde devant vos yeux. Et c'est ce qu'on appelle de l'impromptu, c'est savoir faire de la magie avec des accessoires qu'on a sous la main. Dans la cassette qu'on a entendue tout à l'heure, l'accessoire qui est revenu, c'est le petit foulard rouge. Et c'est pas pour rien, parce que le petit foulard rouge est un grand classique de la magie. On prend le foulard, on le met dans la main, on le fait disparaître, il réapparaît dans la main, ou dans la poche du spectateur, ou dans la main de l'enfant. Et en fait, ça, c'est un des premiers tours de magie qu'on apprend à faire, la disparition ou réapparition de ce petit foulard. Et en fait, on pourrait le faire avec un mouchoir, on n'est pas obligé d'avoir un foulard de soie, ou avec n'importe quoi. Et effectivement, ça, c'est de l'impromptu. Donc, c'est ce qu'on peut faire de la magie avec n'importe quoi.
Et il y a un tour qui t'a déjà bluffé ?
Oh, oui. Oui, oui. Après, c'est des numéros... Enfin, alors, c'est facile d'être bluffé par des tours quand on ne connaît pas encore le secret. Et quand ça arrive en tant que magicien, c'est toujours un plaisir de redécouvrir cette sensation d'émerveillement. Parce que quand on connaît comment ça fonctionne, on est toujours impressionné parce qu'il y a la performance. Mais quand on ne comprend pas comment ça fonctionne alors qu'on a nous-mêmes les bases en magie, et là on se dit, waouh, ils ont réussi à faire quelque chose qui nous épate. Et effectivement, il y a quelques nouveautés ou grandes illusions qui sont aujourd'hui créées, qui commencent à... Comme certains magiciens, par exemple Enzo Wayne, il fait des tours de magie incroyables. Éric-Antoine, on ne le voit plus trop en magie pour le coup, plus en animateur maintenant. Mais oui, ça m'arrive toujours, et quand ça arrive, je suis vraiment content.
Et ton personnage, Emilius Magerium, a une ou plusieurs tenues, par exemple ?
J'en ai plusieurs. D'ailleurs, sur le spectacle de Grande Illusion, je vais changer 3 fois de tenue. Donc ma tenue avec ma veste dans les tons un peu gris-bleu, vraiment qui va être la tenue emblématique du personnage. Le pantalon à rigueur dans les thèmes un peu Tim Burton, pour rappeler un peu Beetlejuice, qui est un personnage que j'adore faire également dans la période d'Halloween. Pour avoir ce côté machinerie, magie assez mystère, justement. J'ai un manteau marron qui rappelle un peu plus le côté charlatan, un peu plus côté Mary Poppins, etc. Et puis bah, la tenue complète en mode Beetlejuice pour aller à fond dans le côté un peu plus macabre. Et là, dans ces cas-là, je fais des tours justement plus dangereux, comme l'homme coupé en deux, un tour avec des clous, un tour avec un hameçon. Justement pour dissocier un peu la partie numéro plus dangereux, la partie un peu plus magie émerveillante, magie visuelle, et la partie un peu participative avec le public.
Et en termes de décor ?
En termes de décor, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir énormément de choses sur scène. Alors j'en ai énormément parce qu'avec la maison hantée, on bricole beaucoup, surtout avec mon père, pour arriver à faire des petits trucs sympathiques. Mais sur scène, en fait, comme mes grandes illusions prennent énormément de place, par exemple, il n'y a pas besoin de beaucoup de décors. Souvent, ça va être des tas de valises, des grosses caisses en bois. Et tout de suite, ça amène un côté mystérieux, parce que quand on voit un tas de valises, des caisses en bois, etc., on a tout de suite la thématique grenier. Et on peut faire tout dans un grenier, par exemple. On peut prendre un objet et le transformer en objet magique. Donc voilà.
Pour toi, la magie, c'est un art ?
Ah, c'est plus qu'un art, oui. Parce que on doit créer quelque chose de visuel qui ont de l'impact et qui reste marqué, qui font aussi réfléchir les gens. Et souvent, après un spectacle, on entend beaucoup les gens parler justement de comment est-ce qu'ils ont fait, ah, c'était beau cette partie-là, quand on fait voler un objet et qu'on le fait flotter dans les airs, il faut qu'on réfléchisse en amont comment est-ce qu'on va le faire voler, parce que ça se prépare, on ne le fait pas juste voler n'importe comment. Quelle est la gestuelle, il faut certainement avoir une chorégraphie. On n'est pas forcément bon danseur, en tout cas c'est pas mon cas, mais j'ai toujours un minimum de mouvement pour que ça soit beau et fluide à regarder. Donc oui, c'est un mélange de plusieurs arts combinés. Et aussi la magie, c'est de l'acting, parce que on dit souvent que les magiciens sont les plus grands acteurs, parce que on arrive à faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Et j'aime bien cette phrase qui est très très belle.
Et est-ce que c'est un art accessible selon toi?
Alors accessible, oui, parce qu'il y a de toute gamme, tout prix en magie. Il peut avoir des petits tours de magie qui va servir principalement pour le close-up. Donc le close-up, c'est la magie de proximité, jusqu'au tour très très onéreux quand on veut faire de la grande illusion, voire encore plus si on veut faire de la très très grande illusion, parce que là, il faut pouvoir stocker le matériel, il faut pouvoir le déplacer. Mais oui, avec une simple boîte de magie, on peut apprendre et faire des tours de magie. Il n'y a pas besoin que ça nous ruine spécialement. Par contre, effectivement, si maintenant on veut faire sa carrière là-dedans, là, il va falloir investir dans sa vie pour pour justement arriver à en vivre, justement.
Et comment se passent les relations avec tes confrères ?
Mes confrères ? Alors, honnêtement, moi, personnellement, ça se passe super bien. J'ai de la chance qu'on soit quand même plusieurs magiciens sur Évreux, ou dans les environs. Hein. Il y a Patrick Gess, mon prof de magie, qui m'a tout appris. Donc là, forcément, ça se passe bien, parce que c'était mon mentor. Et on a également Jérémy Marouani, qui est très local, que vous connaissez peut-être, qui, lui, est génial. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il fait de l'hypnose et du mentalisme. Là où, à la différence, moi, je fais de la grande illusion, de la magie visuelle, et je fais aussi du close-up. Alors Jérémy Marouani fait aussi du close-up, mais du coup on est complémentaires. C'est-à-dire qu'à aucun moment on fait réellement la même chose. On a chacun notre personnage, notre univers. Donc en fait, ça marche absolument pas dessus. C'est pas forcément le cas après de tous les magiciens. Enfin, je suppose que sur Paris, ça doit être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais je ne sais pas encore comment ça se passe. Mais en général, on se réunit, nous, des fois les magiciens, dans des foires à tout magique. On se fait des tours de magie jusqu'à pas d'heure. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'en général, dans l'ensemble, ça s'entend bien, on s'entraide. Par contre, si effectivement, il y en a un qui copie le tour de magie de l'autre à l'identique sans forcément lui avoir acheté son numéro ou vu avec lui au préalablement, là, effectivement, il peut y avoir quelques embrouilles. Mais ça, c'est comme tout artiste. Quand on commence à copier l'art de l'autre, là ça va plus. Mais en règle générale, ça se passe quand même dans l'ensemble plutôt bien.
Tu as dit un peu plus tôt que pour vivre de la magie, il faut investir énormément. Mais à un petit niveau, est-ce qu'on peut quand même vivre de cet art ou on est obligé de se diversifier un peu ?
Bah en fait, ça va être au cas par cas. Enfin, moi, personnellement, je fais pas mal de choses en plus à côté de la magie, comme les escape games. Donc forcément, j'investis beaucoup dans des décors et autres pour pouvoir créer mes animations. Après, si on décide d'être magicien que dans le close-up, donc on fait que de la carte quasiment et autres accessoires, effectivement, là, il n'y aura pas besoin d'un grand investissement, même si ça peut monter quand même un petit peu selon les numéros qu'on veut exercer. Mais derrière, après, effectivement, si on fait que du close-up, il faut arriver à trouver des contrats et des clients derrière qui cherchent que ça. Des fois, il y en a qui veulent du close-up, des ballons, parce que les ballons, ça rentre dans un art annexe de la magie, de la grande illusion, de la scène. En fait, il faut juste arriver à trouver ses clients après. C'est tout.
Et là, on va sur une question qui peut fâcher un petit peu la place de la femme dans le monde de la magie.
Eh bah, ben, moi, non, ça fâche pas du tout, pour le coup. Effectivement, à l'époque, les femmes étaient juste assistantes. En tout cas, c'était très, très rare si c'était pas le cas. Parce qu'effectivement, déjà on vivait à l'époque dans un monde d'hommes. Aujourd'hui, ce n'est heureusement plus du tout le cas. Ça a complètement changé. Moi, j'aime bien appeler à l'époque les assistances des ladies. Moi, j'ai un numéro où je mets quelqu'un et je la coupe en trois. Et du coup, je dis que c'est une lady parce que je trouve que c'est plus joli. Après, effectivement, ce numéro-là, je ne pourrais pas le faire moi-même car je n'ai pas la morphologie et je ne suis pas assez souple pour le faire moi-même. Mais en dehors de cela, effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes magiciennes qui passent à la télévision, Caroline Marx. Ça donne de plus en plus envie aux jeunes filles de devenir magiciennes. Et je le vois parce que quand moi j'ai appris la magie, j'ai eu que deux jeunes femmes avec moi dans mes cours quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, moi j'ai donné des cours de magie, j'avais 3, 4, 5, 6 jeunes filles qui venaient jouer, enfin qui venaient jouer, qui venaient apprendre la magie justement. Et on voit cette évolution justement. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste arriver à apprendre, à se perfectionner et à se lancer. Après, est-ce qu'autant aujourd'hui deviendront magiciennes ? Ça, je ne sais pas. C'est libre à chacun. Mais effectivement, non, ça a beaucoup évolué. Et merci à la télévision aujourd'hui d'être là pour ça, parce que c'est grâce à la télévision et aux magiciennes qui se produisent dans des émissions comme Incroyable Talent ou autre qu'aujourd'hui, ça donne envie à plus de jeunes filles de faire la magie.
Sinon, y a-t-il des projets à venir pour toi ?
Oh oui, il y en a quelques-uns. Dès le 1er juillet, l'escape game Jurassic Lab qu'on fait à l'ancien centre de tri de la Poste, donc dans les locaux d'association Promovart, donc on a appelé ça la marmite timbrée. C'est un lieu où les idées bouillonnent, tout mijote, et on fait pas mal de projets dans ce local. Donc c'est à Saint-Sébastien-de-Morsan, vraiment juste derrière la Poste, et enfin l'escape game du coup Jurassic Lab. Donc c'est sur le thème des dinosaures, laboratoire, génétique, il faut récupérer des brins d'ADN, rassembler le tout dans la bombe de mousse à raser, un peu comme dans le film très célèbre que vous connaissez tous sur les dinosaures. Et vraiment, il est exceptionnel, il est très très chouette. Je viens tout juste de terminer les décors là. Il est prêt à être lancé, il commence mercredi et ça se termine le 16 août. Je peux parler un peu du tarif, etc. pour voir si.
Bien sûr.
Ouais. Alors, c'est 15 euros par personne. Vous pouvez jouer à partir de 2. Donc, si vous venez à 2, ça ne vous coûte que 30 euros. C'est des décors qui sont quand même pas mal poussés et immersifs. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est pas parce qu'on est à un escape game éphémère que ce sera forcément moins bien qu'un escape game en salle fixe. Au contraire, vous serez fortement surpris si vous venez voir la qualité du jeu par rapport au tarif.
On peut jouer jusqu'à combien
On peut jouer jusqu'à 6 joueurs, donc de 2 à 6 joueurs. Et si on fait ce tarif si peu cher, c'est aussi pour faire découvrir un maximum de monde le monde des escape games. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup qui n'en font pas spécialement. Parce que bah, quand on voit le prix des salles, même si elles sont incroyables, ça peut refroidir un peu. Et puis aujourd'hui, pas tout le monde a les moyens de pouvoir se l'offrir. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça.
On réserve avant s'il y a un moyen ?
Alors, effectivement, soit vous venez sur place et si j'y suis, vous pouvez réserver sur place. Mais le mieux, effectivement, c'est directement de vous connecter sur le lien qui est sur l'affiche. Donc, vous tapez Escape Game Jurassic Lab sur Internet, vous allez tomber tout de suite sur le lien le site de réservation ou au nom de l'association Promovart. Ou même mon nom de magicien, vous allez sur mon site Internet, vous avez l'affiche, vous cliquez dessus, ça vous ramène sur le lien de réservation. Vous réservez en ligne quand vous voulez, à la date que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et puis après, il n'y a plus qu'à venir.
On a dit de quand à quand ?
Du 1er juillet au 16 août.
Merci.
Y a-t-il une limite d'âge, du coup ?
Alors, une limite d'âge, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est une question qu'on pose souvent pour Halloween, quand je fais mes maisons hantées. Moi, je n'impose pas de limite d'âge. C'est à vous de voir si vous estimez que votre enfant a la capacité de rester concentré une heure. Après, même si l'enfant, il joue plus, il se balade, il regarde les décors, lui, il va être content de se balader, de voir des dinosaures dans les décors en projection, voir les œufs de dinosaures, etc. Lui, il sera émerveillé. Donc déjà, il va passer un bon moment, même s'il n'arrive pas à jouer. Moi, souvent, je conseille à partir de 6 ans parce que c'est là où on peut commencer à fouiller, à être un peu interactif. Après, j'ai ma petite nièce qui est venue le faire hier en session d'essai pour voir si le jeu était bien calibré. C'est bon, il est bien calibré, vous pouvez venir jouer.
Elle a quel âge, la pichounette ?
Et elle a eu ses 4 ans, là.
D'accord.
Voilà. Après, elle n'a pas tout joué, mais elle a fouillé, elle a mis les mains dans les machins, elle a trouvé des accessoires.
C'est cool.
Et en fait, il n'y a pas besoin, tant que les parents sont là... Pour vraiment faire les énigmes plus compliquées, les enfants ils peuvent fouiller, chercher. Eux,
mais pourquoi on n'a pas fait cette interview chez Jurassic Lab où on aurait dû emmener le studio Pardon, t'as coupé, mais t'avais bien raison de reparler de ça. Il y avait donc cette actu, mais il y en a peut-être une autre. Tu as commencé par...
Effectivement. Après, là, pour l'instant, c'est l'escape game prochain.
Oui,
après, de
clairement.
Toute façon, on en fait souvent. Hein. On en fait en moyenne à chaque vacances, plus ou moins. Donc là, au prochain, après, c'est sur le thème du cirque. Donc, il y a des escape games sur la semaine de vacances d'Halloween. Donc là, ça va falloir remettre le cœur du cirque en place parce que le cirque est un peu mort. Et on fait du coup la maison hantée, donc le couloir des horreurs, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Et cette année, c'est aussi sur le thème du cirque, du coup. Donc, un peu style freak show, un peu à l'époque, avec tout ce qu'on pouvait retrouver. Et puis après, on repart l'année prochaine sur encore d'autres escape games.
Un mot sur ce, je me permets, hein, Enora, tu mènes ça très bien, mais je suis curieux. Tu évoquais aussi ce projet de grand spectacle.
Oui.
Donc ça, c'est qu'en parallèle de toutes tes interventions, moi je t'ai croisé à Val-de-Reuil il n'y a pas longtemps, où tu faisais aussi ton travail.
Je faisais du close-up.
Je t'avais croisé la première fois au Salon du Livre, on n'essayait pas trop empiéter avec le studio radio, on était gênés, on nous a mis là, on veut embêter personne, nous. Là, tu parles d'un spectacle que tu prépares en parallèle, et donc j'imagine que c'est dans sa genèse où il a déjà bien avancé dans son contenu, et c'est quoi qui retient ou qui ralentit, c'est le lieu.
Alors, le spectacle est déjà complètement écrit. Il me reste 2-3 petits accessoires à améliorer pour que ça soit plus haut level. Et après, il faut pouvoir s'entraîner. La Grande Illusion, pour s'entraîner, c'est pas évident parce qu'il faut de l'espace. Donc, l'avantage, c'est qu'avec l'association Promovart où je travaille, de temps en temps, je peux avoir les locaux pour pouvoir m'entraîner sur les numéros. Ce qui retient, c'est qu'il faut arriver à avoir les théâtres parce que c'est de la Grande Illusion. J'en ai 8 sur scène. Ça prend de la place et on peut pas faire ça dans une petite salle des fêtes. Il faut des coulisses, des loges. Il faut l'espace pour mettre les Grandes Illusions et les théâtres. C'est 1-2 ans à l'avance qu'il faut s'y prendre pour pouvoir être programmé. Et avant même de pouvoir être programmé, il faut que j'arrive à en avoir un pour pouvoir justement faire le premier filage complet, pouvoir faire la programmation lumière correctement, parce que c'est beau de mettre sur un papier j'aimerais des éclairages ici, mais entre la réalité et la pratique, il faut quand même s'adapter, et du coup une fois que j'aurai une première ambiance lumineuse bien fixée, une première bande-annonce filmée avec le premier jet du spectacle, effectivement après il pourrait partir en tournée dans tous les théâtres, mais ça c'est le rôle de mon producteur pour le coup d'arriver à trouver des théâtres. Moi j'essaie d'en démarcher un peu de mon côté, mais c'est pas si simple, voilà.
T'as une petite anecdote à raconter ?
Une anecdote.
Ah ouais, ouais, après, j'imagine que quand on est magicien, il y en a 50.
Ah, je pense qu'on a...
Ouais, et, mais soit une rencontre, soit une satisfaction, soit un retour, soit une scène cocasse. Voilà, tu oublies au dernier moment un outil important et tu t'es adapté avec ce que tu as trouvé. Inversement, on t'avait dit que c'était pour les 15 ans d'une jeune fille, mais en fait, ils étaient 40 adolescents de 18 ans avec leur téléphone portable, grands ados. Non, une scène ou une situation mignonne, sympa, quoi. Alors, et puis une jolie histoire.
Cocasse. Très récemment, là, j'ai eu la chance de travailler sur le Grand Rétro Show au théâtre Le Normandie. C'était juste 25 minutes de magie, parce que c'était une convention sur les années 80. Et j'étais en Beetlejuice, donc c'est un personnage qu'on m'a demandé de faire parce que les années 80, ça tombe tout à fait dans le thème. Et du coup, j'ai un petit peu adapté mon speech, mes histoires et mes illusions à faire en Beetlejuice. Et effectivement, quand je viens pour monter dans L'Homme coupé en deux, j'ai pas d'escalier pour monter dedans, donc je lève assez haut la jambe. Et c'était une représentation le samedi et le dimanche, et sur celle du dimanche, quand j'ai levé, ça a craqué mon pantalon au milieu. Alors en regardant la vidéo, ça ne se voit absolument pas, mais naturellement j'ai dit « Oups, j'ai craqué mon pantalon », mais avec la voix de Beetlejuice, donc c'était assez cocasse. Donc... Puis ça va avec le personnage. L'avantage, c'est que pour rattraper quand il y a des bugs en Beetlejuice, c'est facile.
Mmh. Tu la maîtrises comme ça, la voix de Beetlejuice ?
Là, je peux te la faire, oui.
Je sais pas.
Alors...
It's showtime! Salut bande de Nasbrock, vous avez du bol, bordel, je pète la forme. Et oui, c'est moi, Beetlejuice, le meilleur bio-exorciste au pays des morts. Appelez-moi une fois, appelez-moi deux fois, appelez-moi trois fois, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je descendais dans ma tombe, je suis plus fort que la bombe. Youhouhouhou.
J'avoue, bravo.
Ça le fait en tout cas. Quand je suis en personnage, je sais pas là comment ça rend à l'écoute, mais quand je suis en personnage.
Non, mais merci, j'allais pas te le demander parce que je déteste le. Tu sais, ah, t'es rappeur, vas-y rap. Ah, t'es danseur, vas-y danse.
Ça, tu vois, Beetlejuice, je fais chaque année à ma maison hantée parce qu'en fait, c'est un personnage où peu importe ce que je fais, ça passe. Je peux aller embêter les gens, ça passe. Et puis les gens, ils m'appellent dans la file d'attente et moi, je viens et puis j'anime la file d'attente. Et ça me permet aussi d'être libre dans ma maison hantée parce que je dois faire à la fois de la comédie et à chaque fois voir que tout se passe bien, si tout est à sa place, si tous les bénévoles ont ce qu'il faut, ils sont hydratés, ils ont de l'eau, etc. Donc il faut gérer à la fois la technique et le côté
scénique. Un doux rêve alors, c'est une tournée dans des théâtres ?
Oui, et puis effectivement, puis la grande illusion, moi honnêtement, c'est ce que je kiffe faire le plus. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils préfèrent regarder du close-up parce qu'ils sont juste à côté d'eux et ils comprennent pas. Mais moi, ce que j'aime dans la grande illusion, c'est de pouvoir mettre en scène, amener quelque chose, un univers et créer des scènes visuellement incroyables. Voilà.
Enzo Anthony, il est intéressant, le monsieur ?
Bien sûr.
Enzo ?
Oui.
On va aller voir ce qu'il fait, de plus près. On a parlé de rêves, on a parlé d'anecdotes. Quelque chose à rajouter ? Enora, Anthony, Enzo ? Il m'a semblé bien développé, hein, mais je veux pas vous mettre devant le fait accompli. Hein, mais
j'ai une question.
Ah. Oui, parfait.
Est-ce que vous avez déjà loupé un tour de magie en plein spectacle ?
Ça arrive. Oui.
Ouais.
On n'est pas à l'abri d'un couac.
Là aussi, c'est de l'illusion de montrer qu'en fait, il n'est pas loupé.
Alors, exactement, il faut savoir rebondir. Donc oui, ça peut arriver. Alors, s'il y a très très longtemps, mais... Une fois, je voulais faire apparaître un jeu de cartes et ça devient tellement un mécanisme inconscient de faire apparaître le truc qu'en fait, je ne l'ai pas fait. J'ai fait comme si je faisais apparaître, j'ai fait la petite flamme, etc., le mouvement, mais j'avais rien dans les mains. Et en fait, c'est parce que j'ai oublié d'aller chercher le paquet de cartes là où je devais aller le chercher pour le faire apparaître. Et dans ces cas-là, on se sent un peu couillon, donc on rebondit dessus. Et puis on essaie d'improviser pour que ça passe crème. On va jouer souvent sur la carte de l'humour, parce qu'il y a des tours de magie, par exemple, où on fait exprès de se louper. Moi, j'aime bien ces tours de magie-là parce qu'en fait, les gens, ils attendent que ça. Ils veulent voir un loupé. Ils veulent voir un loupé parce qu'ils veulent comprendre. Et quand tu te loupes, ils comprennent, ils sont contents. Mais c'est pas notre objectif à nous qu'ils comprennent. Notre objectif, c'est de garder le secret. Donc,
On
fait semblant de se tromper. Et là, c'est le moment où c'est là qu'on est un artiste, parce qu'il faut savoir recommencer à zéro, ou réimproviser, ou passer à autre chose, sans que le public s'aperçoive qu'il se passe quelque chose qui n'allait pas.
Merci. Et Nora, il a été très clair.
Ah bah oui.
Moi, tu le connais un peu, toi, mais t'as peut-être quand même appris des choses aujourd'hui.
Oui.
Ça, c'est cool, parce que tu vois, Ça, c'est une bonne chose. On sait que tu fais quelque chose à Saint-Sébastien. On le rappelle, on était en compagnie, et je vous redonne son nom, Emilius Magerium. Tu as donc un site internet à ton nom.
Oui, voilà, c'est emiliusmagerium.com. Il suffit, okay. Même si vous tapez juste Emilius, ou le nom de la société Art Magic & Co, donc l'art de la magie et compagnie, vous allez me trouver tout de suite. Hein. Même vous tapez magicien dans le coin, vous allez me trouver. Hein. On n'est pas beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup.
T'as aussi des réseaux sociaux ?
Oui, bah, c'est pareil, c'est Emilius ouais. Magerium ou Emilius Magicien partout. Donc tu tapes Emilius, il n'y a pas 36 Emilius ouais. Sur TikTok.
C'est pas très très commun. Même, mais, tu as, bah, maintenant, tu vas peut-être faire des émules et il y a peut-être des gens qui font tes spectacles qui vont appeler leur fils Emilius.
Ben, ça serait incroyable, moi je trouve que c'est un
c'est tout à fait possible, ouais, c'est joli.
C'est juste un peu embêtant quand les gens ils l'écrivent E-M-I-L-I-U-S.
Ouais.
C'est aimé, pas Emi.
Emilius, tu vois, je l'ai fait aussi. Hein.
Mais ça m'est arrivé sur un contrat il n'y a pas longtemps, hein. Ils ont mon mail, etc. Mais ils ont fait la faute d'orthographe parce que le correcteur a toujours tendance à mettre un I. Parce qu'en France, on dit plus Emilius et pas Emilius.
Merci beaucoup, Emilius.
Avec plaisir.
Bon, on est bien ? On le libère ? Ou est-ce que c'est nous qui faisons un tour de passe-passe et on le garde, on le kidnappe et puis on le rend assez fan un peu plus tard ? Non, on le libère. Merci beaucoup,
avec
monsieur.
Avec plaisir.
Ouais, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Enora, pour cette belle interview. Et Enzo et Ethan, merci à tous deux d'avoir contribué à cet échange, mais plus encore au micro-trottoir. On a une pensée aussi à Esther, pour Esther et Noran qui avaient été présentes lors de ce micro-trottoir. Et puis dans l'élaboration, il y avait eu aussi, si je ne me trompe pas, Ethan et Mersenne. Voilà, au complet. On est bien ? Salut ?
Oui.
Allez, passez une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.